et que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Dans un premier sens, les études sont les années que l'on consacre à apprendre un métier, une discipline ou un art comme la musique. Mais en musique, les études désignent aussi les morceaux justement écrits pour développer sa technique. De Frédéric Chopin jusqu'à Bernard Cavana, en passant par Giorgi Ligeti, le genre étude est consacré, mais comme on apprend toute sa vie, on peut jouer des études bien après ses années de conservatoire. Leurs difficultés pouvant même être calibrées pour déplafonner le niveau d'exigence de tous les conservatoires du monde. Certaines études atteindraient de tels sommets que certains professeurs pensent qu'il faut s'en préserver avant d'avoir déjà progressé dans la carrière et d'avoir largement dépassé le temps des études. D'ailleurs, au moment de commencer l'Académie Philippe Jaroussky, la pianiste Ninon Anne-Carr-Segal s'est vue proposer par Cédric Tiberghien de jouer des études. En suivant la pianiste tout au long de cette année à l'Académie Jaroussky, Métaclassique a pu rentrer dans le chevauchement de ses élans et de ses doutes, jusque dans ses échanges avec le compositeur Bernard Cavana qui lui a justement dédié ses études, et dans un cours où elle travaillait avec Cédric Tiberghien Mazeppa, la quatrième des 12 études d'exécution transcendante de Franz Liszt.
Je trouve que c'est plus facile. Tu seras plus clair que ça. Sinon tu risques de faire... Ce sera pour la clarté, c'est quand même mieux. C'est pas très 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 difficile. C'est plus facile que... Bah oui, parce que là, tu es quand même obligé de jouer très fort la deuxième tierce, alors que là, tu n'as pas le choix, comme tu changes le quatrième. Justement, on va le voir après, ça t'oblige à jouer la deuxième tierce vraiment bien, alors que si tu fais...
Oui, c'est
tu vois, une... Moi, je trouvais ça beaucoup plus difficile de faire ça, parce qu'en plus, là, comme tu as toujours le même doigté, tu vas être obligé un tout petit peu avec l'avant-bras, d'avoir des petites impulsions, ce qui est plus difficile à faire quand tu changes, quand tu... C'est beaucoup plus difficile.
Ma prof au CNSM, en master, Marie-Joseph Jude, elle parlait de la peau de crevette qu'on construit sous l'ancienne peau pour faire une peau neuve et enlever l'ancienne peau au moment où la peau neuve est prête pour remplacer l'ancienne pour être assez résistante. Et ça, c'est les études qui créent cette peau neuve. On apprend des choses, elles ne sont pas tout de suite... visible, et au moment où on est prêt, on la sort et on resplendit. Et c'est toute la vie du serpent, ça.
Ah oui, mais ça veut dire que c'est définitif, ouais. On va étudier toute sa vie,
ouais,
alors.
Oui, je pense.
Parce que la question que je me posais, c'était effectivement, comment est-ce que vous pensez le rythme de vos progressions? Vous le pensez comme saisonnier?
Oui. Non, vraiment saisonnier. Alors là, c'est exactement le mot,
ouais.
Parce que là, on est en novembre, c'est la dépression saisonnière. C'est dur. Et c'est vrai qu'on est rythmé par le soleil, par la lune, par les aléas de la vie, donc presque les intempéries en fait, qui viennent nous frapper, nous ralentir et ou nous donner de l'énergie justement. C'est pas forcément quand il fait beau ça va bien et quand il fait pas beau ça va mal, mais je pense que ça joue beaucoup.
Parce que certes, on est au mois de novembre, mais on est le jour de la nouvelle lune.
Ouais.
Donc il y a...
J'espère que ça va m'apporter du bon.
Quelque chose qui se relance quand même.
Oui, voilà, j'espère.
Et est-ce que c'est plus ou moins intense alors d'une saison à l'autre, la progression? Parce que...
Oui. Ah oui, oui. Bah alors...
Ça veut dire qu'il y a des saisons qui servent à rien?
Alors non, aucune saison ne sert à rien. Par contre, il y a toujours des petits pics au début, ou enfin à un moment dans la saison... Je peux me souvenir de toutes mes études au CNSM et puis maintenant que je suis sortie aussi, l'été c'est intense. On en parlait tout à l'heure avec des collègues de l'Académie Jaroussky. On se dit l'été c'est quand même dur parce qu'on a passé tout le printemps à essayer de s'organiser pour pas être trop sous l'eau avec tous les concerts qui s'enchaînent et les trains et les avions parce que c'est la saison des festivals. Ensuite, il y a l'hiver qui arrive, on a quelques concerts, on prépare souvent la fin de l'année, il y a certaines choses. Et on a les projets qui sont déjà, on les voit déjà arriver pour l'été d'après. Et le printemps, souvent on a un petit coup de boost. Il y a parfois, c'est dans ces moments-là qu'on a des remplacements importants à faire, des choses comme ça. Moi je pense juste à moi, parce que je parle de moi.
Alors vous voyez, en fait ça fait deux minutes que je vous parle de votre progression à vous, dans votre rapport à l'instrument.
Oui.
Et d'office, vous me répondez volume de production, sollicitation, c'est-à-dire un rythme pour le coup qui vient de l'extérieur.
Oui, c'est vrai.
Et alors, comment on fait pour remettre un rythme intérieur là-dedans ?
Méthode, cadre. Et
pas penser, parce qu'il faut que vous pensiez votre parcours de progression, non ?
Oui, en ce moment je le subis un petit peu, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à mieux justement penser et... Moi, je sais que j'ai des objectifs à long terme au niveau du répertoire que je n'ai pas programmé du tout. C'est un répertoire pour moi. Et je le travaille le matin. C'est la première chose que je fais après
une... C'est-à-dire ça, c'est une espèce de projet plus à long terme que tous les projets dans lesquels vous pouvez être engagé par ailleurs.
Je vois ça dans progression personnelle.
Ouais.
Mon petit jardin secret de piano. Il y a des pièces comme ça. Je sais que je les...
C'est quoi ? C'est un répertoire plan B ?
C'est pas un plan B. C'est un plan A, du coup. Puisque c'est important, c'est les pièces que j'ai envie de construire pour l'avenir, pour qu'elles m'accompagnent dans ma vie. Aujourd'hui, je joue des pièces que j'ai travaillées il y a 5 ans, en fait, comme ça. Parce que maintenant, j'ai...
Ah oui, donc vous jouez de la peau ancienne.
Voilà.
Donc,
je construis la peau neuve.
Ouais, c'est ça.
En ce moment, oui.
Le matin, entre 6 et 8.
Ouais, 6, 9, 6, 10, ouais.
Le fait d'être à l'Académie Jarouski, pour le coup, c'est être à la fois hors des études et encore dedans.
Moi, je vois ça hors des études.
Oui.
Parce que, enfin, des études, moi, je les vois, les études, moi, je vois le CNSM de Paris et tous les conservatoires que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Je pense à l'Allemagne, je pense aux États-Unis ou même à la Suisse, qui est très tentante. Je pensais que ça allait être un petit peu comme le CNSM et j'avoue que c'est la deuxième semaine et c'est vraiment pas pareil. Même si on voit un peu les mêmes personnes, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Paris. Il y a un Belge, il y a des Lyonnais.
Mais à part l'éclectisme des profils, qu'est-ce qui fait que c'est différent du conservatoire, ce qui se passe ici ?
D'abord, Cédric est différent. Vraiment, parce que c'est pas un professeur de CNSM, c'est pas un professeur de conservatoire, c'est un pianiste qui joue.
Agora, Côte d'Azur.
Ouais, celui-là est plus difficile. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile ?
Bah parce que s'il y a le déplacement comme ça.
Oui, mais c'est le... En fait, tu as les deux déplacements en même temps. Tu as le déplacement de la main gauche, puis de la main droite.
Ouais.
Ici, le premier déplacement auquel tu dois penser, c'est lequel ?
Main gauche.
Ben oui. Donc ici, tu te concentres sur les déplacements de la main gauche. Et une fois que tu as, même si ta main gauche elle n'est pas encore arrivée, une fois que tu as lancé l'information, tu te concentres sur mi sol à la main droite.
Ok.
Il faut vraiment sélectionner les informations, c'est de la chronologie au 20e ou au 30e de seconde, on s'en fout. Mais c'est important que toi tu saches dans quel sens penser. Ouais. Parce que si tu t'occupes de la main droite, bah, ta main gauche elle va partir, elle va vaguement aller chercher ton là, tu vas sans doute le louper, ton façade il va être un peu raté, tu vois. Ça c'est vraiment très important. Alors ça peut te paraître un petit peu trop de la dissection et au microscope, mais c'est vraiment important, vraiment très important.
Ouais, comme beaucoup d'études très, très réussies, des cycles d'études où on sent... qu'elle pourrait avoir un nom. Les études de Chopin, on leur a donné un nom au XXe siècle, des noms très rigolos. Les études de Liszt, je ne considère pas ça... C'est de la virtuosité gratuite, un petit peu.
À ce titre-là, c'est bien des études.
C'est bien des études, mais comme tout Liszt, il a toujours un peu fait ça. Le Roi des Aulnes, par exemple, c'est considéré comme la transcription qu'il a fait du Lied de Schubert, c'est considéré comme une étude, c'est juste une transcription qui est très dure. Mais c'est pas forcément une étude pour les octaves répétées si on veut. Mais en soi, il y a tellement d'images derrière, je ne considère pas comme une étude. Mais c'est pareil pour l'étude de Bartok, étude de Ligeti, étude de...
Parce que c'est faire que cette virtuosité qui peut paraître gratuite ne l'est finalement pas.
Oui, peut-être. Après, je pense que justement, quand on n'est plus en étude et qu'on travaille des études, on sait très bien pourquoi on la travaille. Soit on l'aime... d'amour, on veut la jouer, voilà. Soit on sait qu'on a besoin de travailler le geste pour justement l'avoir dans notre palette de couleurs. Et, ou travailler, justement, moi j'aime bien travailler le geste latéral du poignet. Je travaille l'opus 25 numéro 1 de Chopin le matin. Je commence comme ça, et quand je finis, c'est...
ça va marcher du tonnerre. Parce qu'on arrivera avec ce geste comme ça. Qui a aussi ce truc de poignet, de chat, etc. C'est un peu ça te demande un peu les mêmes choses, mais en plus facile, en plus... c'est une étude très agréable que je fais pour me chauffer, donc de toute façon, voilà. Et là, on arrive avec un peu la distorsion de l'étude de Chopin, presque. Ça m'a tout de suite fait penser à ça.
Bon, alors, j'ai pas compris. Bernard, vous vous mettez à écrire des études.
Qu'est-ce qui m'a pris à
écrire des études pour piano?
En fait, c'est plus que ça, c'est même écrire pour piano.
Parce que ça vous était pas arrivé?
Jamais, jamais. J'ai utilisé le piano dans l'orchestre, mais comme faisant partie intégrante de l'orchestre, mais jamais des pièces pour piano. Pourtant, c'est mon instrument, mais ça m'avait toujours fait un peu peur.
C'est pourtant ou parce que c'est votre instrument?
Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien travailler. C'est un peu monotimbral. Le piano, moi j'aime bien travailler sur les timbres, sur des modes de jeu. Je voulais pas non plus travailler sur le piano préparé. Je voulais vraiment aborder le piano dans son essence première, pas tricher avec ça. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de réticences jusqu'à maintenant, jusqu'à mon vieil âge, parce que j'ai 71 ans maintenant. Voilà.
Et vous avez commencé à écrire les études à 69 ?
69 ou 70, voilà, c'est ça.
Mais alors donc, vous le sentiez comme une sorte de péché de vieillesse, comme disait Rossini ?
Oui, absolument. Et à un moment donné, j'ai trouvé un angle d'attaque. Sur la première étude, c'est uniquement un tétracorde. Quoi.
On divise en deux tétracordes. Hein. Donc là, c'est le premier. Donc ça peut être ici, ça peut être... Voilà, ça peut être ça. Mais ça joue aussi, c'est un tétracorde qui est complètement éclaté. Ça. Voilà, on est sur... Là, j'ai ré, mi bémol, mi bécard, fa. Hein. Donc c'est l'idée d'une chose resserrée, mais qui est complètement éclatée. Elle va faire ça mieux. Il y a différentes manières de répéter.
Voilà. Et en fait, c'est ça tout le temps. C'est toujours de plus en plus fort en intensité, un peu comme Femme de Ligeti. Elle me fait penser un peu à l'étude comme ça et qui finit et elle se dégonfle. Et c'est exactement pareil là avec la fin. Mais en fait, c'est comme apprendre une nouvelle manière de jouer du piano. C'est un nouveau geste. Il faut apprendre ce geste-là, il faut l'anticiper. Et ça me fait penser justement au conservatoire. On avait ce prof de musique de chambre avec mes collègues percus qui s'appelle Michael Lenz et qui avait une fâcheuse tendance à prendre les baguettes ou à venir au piano et dire « Mais non, il faut ce son-là !» Et il avait ses doigts tout raides comme ça. Il arrivait et il était debout comme ça avec son petit chapeau. Il faisait comme ça, il faut jouer comme ça. Et nous, on était là, mais... Boug, là, en fait, moi, je suis rentrée au CNSM de Paris dans mon instrument. Tu es prof de violon, tu te sais. Et en fait, on avait cette attitude-là. On se disait, mais il se prend pour qui, lui? Et en fait, on faisait ce qu'il disait à un moment, parce qu'il était tellement insistant. Et en fait, ça marchait super. Et c'était juste un nouveau geste. C'était juste, je veux entendre ça. Tous les moyens sont bons pour le faire.
Et alors, Ninon, quand vous dites que vous connaissiez la musique de Bernard, est-ce à dire que vous la reconnaissez dans les études qu'il a composées pour le piano? Attention, la question suivante sera en quoi?
Eh ben, du coup, non. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai commencé les études, je les ai lues, parce que je me suis dit, bon, pour faire le devis, voir les dégâts qui vont être causés dans mon quotidien par ce texte.
C'est l'ordre du devis, c'est-à-dire d'évaluation du coût de travail que ça va représenter.
Alors oui, là pour l'instant, je trouve que je suis encore pas assez lucide pour faire des devis qui sont réalistes, mais c'est ça, la jeunesse, l'inexpérience. Mais je pense que c'est ça le progrès, c'est qu'on se dit « mais oui, je vais le faire ».
En 100 ans, qui va écouter le plus 132 de Beethoven, je ne suis pas certain qu'on trouve encore beaucoup de monde.
Ah bon?
Ouais.
C'est pessimiste.
Oui, un peu.
Ouais. Mais
en même temps, il y a c'est un autre changement. Quoi. C'est...
Mais pourquoi est-ce qu'on n'écouterait plus l'opus 132 dans 100 ans ?
C'est trop complexe. C'est trop complexe. On n'est plus à... Plus
ah, on va perdre en complexité.
Les orchestres symphoniques qui jouent maintenant des musiques de films sont l'image. Ça, c'est complètement déconnecté. Bon, même du Piazzolla... Bah,
quand on construit quelque chose avec une citation, j'ai l'impression que plutôt on se dit bon voilà, c'est ces racines là et on ça donne quelque chose et c'est plutôt c'est positif.
C'est un fragment du passé mais que je mets en scène comme s'il était enfoui.
Oui.
J'ai fait ça avec la 9e aussi en prenant 7 ou 8 fragments de la 9e, mais comme si on était dans un champ archéologique imaginaire. De temps en temps, on découvre 3-4 notes qui nous font penser à l'autre de la joie, soit au premier mouvement, et puis après, plus rien. Enfin, c'est...
Moi, je suis pas aussi... Je pense pas qu'on l'écoutera plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a 100 ans, on se disait déjà qu'on n'allait plus écouter.
Ça a beaucoup changé, je trouve. C'est aussi...
Est-ce que vous pensez qu'on l'écoute moins bien maintenant, par exemple ?
Oui, je pense.
Ah oui.
Oui, je pense. C'est que ce sont quand même des œuvres qui ont été écrites pour un public qui voulait se reconnaître à travers ces œuvres-là, même si des fois ils envoyaient peut-être les compositeurs, mais ils étaient armés pour écouter cette musique. Il faut savoir qu'ils l'entendaient qu'une fois. Webern, je crois qu'il a entendu la 9e pour la première fois avec un orchestre. Vraiment très tardivement, quand il devait avoir 19 ou 20 ans, on ne donnait pas autant d'œuvres. Nous, on peut avoir accès aux œuvres tellement facilement, mais ils la connaissaient parce que ils étaient au piano, le piano c'était leur chaîne musicale ou alors c'était leur streaming numérique de l'époque. Quoi. Donc,
Par exemple, les façons d'écouter d'avant, on ne peut pas imaginer puisque.
Non,
voilà.
On peut pas imaginer.
Mais j'imagine qu'il y avait autant d'ignorants qu'aujourd'hui. Dans la mesure où personnellement, je me trouve très ignorante quand j'écoute de la musique. Par exemple, quand j'écoute une symphonie de Mahler, jamais de la vie, je vais avoir une vision analytique. Je vais juste me mettre dedans et je vais me laisser traîner dans la musique. Je me laisse traîner. En fait, je fais tout le temps comme ça. Je me laisse traîner dans le truc. Si je m'ennuie, c'est pas bon. Si je m'ennuie pas, c'est OK. Ouais. et je pense qu'il y avait pas mal de gens depuis le début de la musique qui veulent la musique pour habiller le temps ou pour rêver. Et du coup, je le vois toujours de cette manière-là. J'ai l'impression que depuis des siècles et des siècles, des années, il y a des gens comme moi. C'est les moments où je me sens pas interprète hein, parce que je ne veux pas commencer à essayer de m'accrocher à des choses, etc. C'est peut-être pour ça que j'aime bien aussi me perdre dans la musique qui est pas tonale, qui a pas forcément de forme précise, parce qu'en fait, de toute façon, il y aurait une forme précise, je me laisserais traîner autant. Donc j'écoute comme ça. Je me dis qu'il y aura toujours des gens comme moi qui se laisseront traîner comme ça dans la musique.
Je te rejoins là dans ce que tu dis. C'est pas l'analyse qui nous permet d'entrer dans une pièce.
Oui,
moi-même, quand j'étais môme, pour Bartok, je détestais Bartok. Quand j'ai découvert la sonate, par exemple, c'est dissonance. Mais je disais, il est mort en 45, on le joue toujours, donc c'est moi qui ai un problème. C'est pas Bartok qui a un problème.
Ouais.
Donc il suffit de réécouter les pièces. Ouais. Et puis après, ça rentre. C'est assez facile,
non,
finalement.
Mais c'est super facile.
La musique, c'est assez facile, mais simplement, il y a beaucoup d'informations. On ne le comprend pas toujours au début, y compris pour des œuvres classiques. Hein. Il faut simplement réécouter, c'est tout.
Et après, bon.
En fait, cette deuxième étude, je suis parti, c'est pour ça que ça m'a donné, pour répondre à votre question, c'était. Au départ, une pièce écrite pour Christophe Roy, violoncelliste, et Christophe Henry, pianiste, pour un duo qui s'appelait Alt Music. Et je suis parti là-dessus, en fait. J'ai repris la partie de piano, et c'est à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi je ne continuerais pas avec cet instrument ? Mais au départ, c'est une pièce pour violoncelle et piano.
Moi, je pense que c'est une étude de timbre, plus qu'une étude de rythme. C'est une étude, j'ai l'impression, de sensibilité avec le clavier, du coup. Même s'il y a ce besoin de quatrième pédale, c'est presque une étude de proximité avec la corde. C'est pas mal, parce que du coup, si c'est musique pour corde et céleste, enfin, proximité avec la corde, ça paraît très bien. Il y a des moments d'explosion, des moments avec des très gros déplacements. parlé parce que je disais que c'était dur d'avoir ce même accord là qui... Et après, bon, il faut être malin avec les doigtés. D'ailleurs, j'ai proposé à Bernard, là, quand j'aurais mis tous mes doigtés, de les éditer. Comme ça, les gens, ils se diront, ah, c'est bien, elle est déjà les doigtés. Voilà.
Et la première, je me demandais si c'était jouable. Hein.
Moi, j'y arrive. Mais vous avez fait exprès de la faire quasi injouable ou non, c'est... Non, mais j'y arrivais... ça veut dire que la logique digitale vous a échappé.
J'y arrivais extrêmement lentement, 7 fois plus lentement. Mais j'ai donné cette étude à divers pianistes agréés aux techniques contemporaines, des anciens, des nouveaux, des jeunes, et personne ne m'a répondu. Alors je me suis dit, c'est peut-être vraiment très très mauvais, ou alors vraiment infaisable. Et Ninon
a accepté.
Non seulement elle a accepté, mais elle est enthousiaste, m'a écrit un mail, j'étais vraiment très très heureux de le recevoir. Ouais.
Maintenant, est-ce que tu es très heureux de... d'écouter que c'est, bah, le travail il est long?
Et tu peux faire peut-être très lentement.
Ouais, ouais, je vais le faire. Mais je vais faire un peu lentement et un peu plus vite, ouais, et un peu plus vite, voilà. comme tout à l'heure.
Ouais. Mais en fait... C'est comme des cloches en fait, c'est l'idée, c'est des tintements de cloches mais désordonnés, chaotiques. C'est pas pour
bon, en général, les tintements de cloches, ils sont rarement en cadence. Hein.
Oui, mais là, ils sont encore beaucoup plus...
plus irréguliers, ouais.
Et là, c'est vraiment... En fait, pour moi, c'est l'étude du chat. C'est pour ça que c'est pas pianisé, c'est juste qu'il va falloir du temps. Il faut faire le geste très lentement pour essayer de toujours retomber sur ses pattes, mais...
Agora, Côte d'Azur.
Que c'est ce truc que j'avais mis, je m'étais dit bon je vais mettre des mots un peu pour m'aider pour quand je me suis retrouvée, c'est sûr qu'il faut pas être raide comme un balai, se dire oh là là je vais jamais y arriver au tempo et essayer tout de suite aller vite. Je pense qu'il faut faire comme pour un gymnaste, on décompose le mouvement, on décompose la série. Donc là je parle de gymnastique, je parle même pas de danse, même si il y a le geste, il y a la danse, etc. Mais comme c'est acrobatique, un peu comme la capoeira quoi, il faut partir en se disant, ok,
ça c'est le tempo visé.
Bah, le tempo visé, c'est peut-être... ouais, c'est ça, quelque chose comme ça.
Ce qui m'intéressait, c'est, dans la première, en tous les cas, c'est de trouver un geste qui est complètement inhabituel dans les techniques pianistiques. Là, on n'entend que 4 notes, mais ça évolue après. Hein,
ouais. Mais ça tient à quoi que le geste soit si peu conventionnel?
Geste, c'est ce qu'elle parle de mouvement de chat, ça me plaît beaucoup. C'est souvent, les groupes, pour la main droite, tu peux faire que la main droite, c'est souvent par 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et à gauche, c'est 6. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et on évolue en haut ou en bas pour la main droite sur les mêmes notes.
Ah d'accord, donc oui, il y a une espèce de battement qui se désynchronise. Ouais.
Voilà, si tu le fais encore les deux en lentement. La main droite vient parfois en bas de la main gauche, ou parfois au-dessus, hein, selon les notes. Hein, donc, et dans la vitesse, c'est assez impressionnant de voir les mains comme ça. Okay. Et c'est dédié aussi à mon prof de piano, Charles Hervé, né en 1929 et toujours vivant, toujours parmi nous. Et c'est celui qui a fait cette fameuse méthode aux éditions Le Moine. Je ne sais pas comment ça s'appelle.
Mais oui, c'est ça. Mais oui. Mais oui. Mais moi j'ai commencé avec cette méthode.
Non.
Si.
C'est pas vrai.
Oui. Avec le petit poney.
Le petit poney. Voilà. Donc c'est si joue si bien, c'est qu'elle. A...
c'est qu'il y a eu du petit poney.
Il y a eu du petit poney. Quand j'étais petite, il y a toujours du petit poney quand je suis prof. C'est vrai que... Parce que j'arrive pas à me défaire de cette méthode.
Ah oui?
Non. Il y a, surtout, dans cette méthode, il y a le boogie. Oui. Non. Oui. un des morceaux qui m'a donné envie de faire du piano, je me suis dit, ah, c'est cool quand même de faire de la musique, parce que c'était la sœur de mon meilleur ami de maternelle qui jouait ça, et nous on était sur le lit derrière en train de faire la zumba, on était comme ça, et puis elle, elle jouait, peut-être mal d'ailleurs, je sais pas. La dernière, c'est ma préf.
Ah ouais, déjà.
Ah oui, oui.
Depuis le tout début, depuis le déchiffrage.
Ah oui, depuis le déchiffrage, je savais que c'était, ça allait être.
Et pourquoi vous auriez dit?
Parce que c'est la danse de la joie. Je sais pas. Il y a un truc un petit peu. Bon, on en parlait. C'est pas si joyeux parce que c'est un tout petit peu de.
C'est en fait des valeurs très longues qui vont se superposer à une énergie qui, elle, va être de moins en moins énergique. Et sombrer, et c'est ce choral avec les valeurs longues qui va dominer. D'ailleurs, on termine en la majeure.
J'arrive plus. Je suis allé loin là.
Et pourquoi le la majeure est pas si joyeux alors, Bernard?
La majeure, mais quarte et sixte. Hein.
C'est quoi le la majeur? Oui, non, mais d'accord. Mais pour vous, c'est quoi le la majeur? Ça renvoie à un truc, apparemment.
L'accord de la majeur? Pourquoi
oui,
ça
oui,
s'appelle
oui.
comme ça?
Non, non, je sais, il y a des raisons techniques, mais pour vous.
C'est vraiment la suite de ce choral qui demande, les attractions demandent vraiment qu'on puisse se résoudre.
Ah oui, c'était un résultat, mais qu'est-ce que ça connote?
Ouais, ouais. On sent très bien les attractions, hein. Si on joue que le choral, ça fait ta tu
oui, oui, c'est vrai.
Ta,
c'est vrai que c'est le.
Mais après ça revient.
Mais d'ailleurs, t'as pas mis n'importe quelle la majeure. T'as pas fait. T'as pas fait ça.
Non.
T'as fait vraiment le. Et ça, c'est le plus beau truc du monde en fait, je trouve. La quinte avec la sixte, je dis toujours à mes élèves quand j'en ai. On peut faire des trop beaux accords juste avec ça. Avec la dixième. C'est quand même une ouverture.
C'est
pour ça qu'il dit qu'il est pessimiste, comme ça que ses idées, l'humanité, elle va s'effondrer. Mais en fait, c'est quand même super optimiste de finir comme ça. Parce que c'est très ouvert. Non ?
Oui.
Je trouve. Et du coup, je finis comme ça, et après. Et ça part en liste.
Oui, ta main droite, il faut qu'elle soit déjà. Oui, exactement. Il faut qu'elle soit prête en même temps. Tu vas pas avoir le temps de la déplacer pendant que tu joues ta main gauche.
Oui.
Donc il faut que tu commences ta main gauche et tout est déjà prêt. Bon. Oui, pas d'adaptation, il faut que tu tombes dessus directement. Ouais. Tu vois, en fait, c'est vraiment la dissection de la difficulté. On le fait pas tout le temps, hein, quand tu joues, je sais pas, telle ou telle pièce de Schumann, mais en fait, quelquefois, quand tu veux vraiment régler un problème technique, parce que pour pouvoir t'exprimer musicalement, il faut quand même maîtriser techniquement, encore plus dans ce genre de pièces où la difficulté est effroyable, il faut vraiment dire, alors c'est quoi cette difficulté? Pourquoi est-ce que c'est difficile?
Il y a une définition possible de l'étudiant, c'est celui qui prend des notes. Est-ce que vous prenez des notes après un cours?
Moi, pendant toute ma vie, j'ai tenu un journal de vie. Et ce
Donc
journal,
vous êtes toujours étudié en train d'évoluer.
Voilà, mais de tout, pour tout. Et ce journal, au fur et à mesure de la vie, s'est transformé en journal de piano. Parce que ça a pris de la place. Et je me suis rendu compte que je parlais que de ça quand je l'ai relisé. Parce que je les relis.
Ça, ça c'est mon petit carnet de quand je suis rentrée au CNSM. Donc voilà, juillet 2016.
Non.
Si, juillet 2016. Donc je m'appelais encore Ninon Anker dans ma tête. Je ne m'appelais pas Ninon Anker Segal.
Parce que ça vient d'où le deuxième nom?
C'est le nom de ma mère. Et
Vous n'aviez pas gardé
En fait, ma mère, elle n'avait pas mis sur nos papiers avec mon frère parce
D'accord.
que c'était long.
Et puis, parce qu'Anker Segal, c'est très long. Mais Anker, pour moi, ça sonne pas très bien tout seul. En tout cas, avec mon prénom. Et en juillet, en fait, je rentrais de quelque part. Qu'est-ce que je rentrais de je sais pas quoi. Ah bah voilà, Arthur et Ninon. Ça, c'est Histoire de la musique. On a dû faire un dessin en Histoire de la musique. Voilà, c'est donc, il y a une crotte, il y a de l'argent. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, il y a beaucoup de bêtises, hein. Il y a quoi? Bon, il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Mais il y a... Alors, ce qui est très marrant, on ouvre c'est le premier carnet que j'écris après le CNSM. Le premier truc qui est marqué, c'est WFIMC, et c'est un site qui répertorie les concours.
Ah oui.
Donc ça, ça veut bien dire quelque chose. Donc là, je rentre, je suis à fond dans les concours, et j'ai mis mon truc là. Là, c'est le mardi 12 juillet, et je suis pas encore rentrée au CNSM, et je suis déjà en train de planifier mon futur, donc je dis... J'ai déchiffré à nouveau le Schubert, la sonate en do mineur. Elle est vraiment magnifique. Je pense que c'est parfait pour la présélection. C'est décidé, pour le concours ou non, je la travaille. Elle me rappelle beaucoup de souvenirs, plutôt des bons d'ailleurs. Il faut savoir que cette sonate, en fait, je l'ai travaillée pour l'entrée au CNSM que j'ai pas eue. La première fois que je l'ai fait. Je pense que c'est une sonate qui se filme bien.
Et qui ça, se filme bien.
Mais voilà. Alors ça, c'est drôle. Et c'est le début de la fin, là. Hein, qui se filme bien. Et là, voilà. Je reprendrai bien aussi volontiers la toccata de Debussy. Si je la joue avec une étude difficile, ça passera. Donc, autrement dit...
Donc là, c'est la recherche de combinaisons opportunes.
Voilà. Pour me mettre en valeur. Donc, ça se filme bien. Ça passera parce que si j'y mets une étude difficile à côté de la toccata de Debussy qui, apparemment, dans mon speech, c'est pas dur, alors que c'est super dur cette toccata, hein, elle est dure à faire. Enfin, c'est beau et dur et il faut. Enfin, voilà. Donc c'est très bizarre. Après, il faut que je laisse, que je fasse très attention et que je réfléchisse encore. Il faut que je montre ma technique au maximum. Marrant! J'espère que mes projets aboutiront.
Très bonne élève.
Oui, ah
jusque
non,
dans ses pensées.
De toute façon, moi, je suis une très bonne élève. Et c'est ça le problème, c'est qu'il faut bien faire. Il faut faire bien.
Et c'est un problème.
Bah, c'est un problème. Bien, c'est l'ennemi du mieux. C'est vraiment. Parce qu'en fait, le meilleur moyen d'être la meilleure de loin devant les autres, c'est que tous les nerds, un peu comme ça, avec leurs lunettes, qui font super bien les maths. Les maths, j'étais pas hyper forte, mais j'étais genre troisième de la classe en maths, quoi. Et eh ben, en art plastique et en sport, faut être le meilleur. Comme ça, au moins, avec les coef, et eh ben, si on a 20 en art plastique et genre 19 en sport, et eh ben, ça monte tout le monde. Alors que eux, ils vont avoir des 13 en art plastique, des 12 en sport. Ça va leur baisser leur moyenne. Et moi, ça va l'augmenter. Voilà. Là, on est le 4 septembre 2017. Et je mets. Le conservatoire n'ouvre pas avant le 19. Enfin, il ne donne pas de studio avant cette date. C'est vraiment des gros enculés. J'ai l'impression... J'ai l'impression qu'ils s'imaginent que personne n'a eu de soucis pour bosser pendant l'été. Trois petits points. Ils n'en ont strictement rien à foutre de notre gueule, là. Et c'est vraiment grave pour tout le monde. Putain, il est temps que je sois soutenue par des mécènes, là. Ou que j'ai un piano. Donc c'est marrant, parce que j'ai un piano et je suis soutenue par des mécènes. Donc c'est bien, bravo, Ninon. Ensuite.
Anniversaire de Mozart.
Ouais. Alors, je joue la sonate en fa majeur. C'est mignon, ça. Truc avec des ingé-sons. C'est que du travail, ça. J'en ai des trucs. Est-ce que je fais partie de cette race de gens qui ont besoin de renouvellement perpétuel? Peut-être. Là, franchement, j'étais...
Et là, c'est de l'introspection.
Alors là, oui. Mais là, du coup, à mon avis, ça part du fait que j'ai rencontré quelqu'un.
Ouais.
Sauf que je suis avec quelqu'un. Et que, du coup, je peux pas être avec l'autre quelqu'un.
Oui, c'est un dilemme.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, on voit le dilemme.
Est-ce que vous n'avez eu que des bons profs?
Non, pas du tout.
D'accord, donc on peut pas dire que vous avez eu particulièrement de la chance?
Non, j'ai eu beaucoup de malchance.
Ah oui, plutôt beaucoup de malchance.
Ouais, ouais, ouais.
Et qu'est-ce qui fait que vous en êtes sorti alors, si vous avez eu tant de mauvais profs que ça?
Bah, en fait, j'ai mal commencé ma vie pianistique avec quelqu'un qui ne voulait pas
partager son amour de la musique, décidément pas. Vraiment, même, je pense que bah, c'est humain, hein, mais je pense qu'il m'aimait pas trop et il me le faisait bien sentir.
Bref, ça matchait pas, quoi.
Non. Et il y a quelqu'un qui est venu, et ça, pour le coup, j'ai eu de la chance. Il y a une sorte d'ange du ciel qui s'est posé sur ma tête à un examen qui avait été invité en jury, qui s'appelle Romano Palottini, et qui était prof à Saint-Maur et assistant au CNSM. Et en gros, il a dit à mes parents, mais moi, tu viens dans ma classe et je te fais rentrer au CNSM en 2-3 ans. Et j'avais 12 ans.
Il était sûr de votre potentiel ou
oui.
du sien ?
Non, du potentiel, de son potentiel et oui. du fait que ça allait très bien matcher, justement.
Oui.
Je me souviens, il me disait que j'étais un pur sang, ça m'avait fait rire. Parce qu'il me disait que j'avais les nasaux. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à me sortir de la relation toxique que j'avais avec mon prof de Reims, parce que j'avais envie que ça matche. Moi, j'avais envie de forcer le destin, j'avais envie que ça marche bien. Je faisais tout pour lui plaire, ça ne marchait pas. C'était vraiment catastrophique, dans ce conservatoire aussi, avec d'autres profs. Enfin, c'était difficile. Et en fait, à un moment, je suis partie. Et je suis partie à 15 ans, j'ai abandonné.
Mais parce que vous aviez une porte de sortie, et parce que précisément vous aviez trouvé.
J'ai été sauvée.
Cette alternative.
Ah oui, ouais. oui. Et ça, il faut faire attention. Dans les études au conservatoire, il faut que les. Heureusement que mes parents étaient là, en fait. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens.
Mais à quel endroit ils vous ont aidé à ce moment-là, vos parents ? C'est-à-dire, ils vous ont aidé à ne pas renoncer ?
Bah, déjà, ils m'ont aidé à arrêter l'école. Je suis allée au CNED. Et pour certains parents, c'est très difficile de se dire, OK, bah, mon enfant, il part, en fait. Il part de la maison. Il va plus à l'école. Et il veut faire du piano dans sa vie ou de la musique, enfin voilà. Et on va l'aider et on va débourser de l'argent pour lui payer le train, pour lui trouver un logement à Paris. Et on va croire en lui aussi. Enfin...
Mais alors quand ce prof de Saint-Maur vous disait que vous étiez un pur sang, finalement c'est parce que vos parents, pour le coup, vous faisaient des sortes d'injections de pur sang, c'est ça ?
Non, je pense pas. Ma mère et mon père travaillent beaucoup. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours voulu travailler beaucoup aussi, par mimétisme. C'est des gens qui sont très passionnés par leur travail. Et ma mère, très appliquée, très méthodique. Et c'est elle qui m'a vraiment dit, si tu fais du piano, tu le fais bien. Sinon, t'en fais pas. C'est pas grave de pas en faire. Mais si tu le fais, tu le fais bien. Et si tu fais du karaté, tu fais bien du karaté aussi. Ou autre chose. Donc à l'école, c'était pareil. Il fallait que ce soit irréprochable. Et d'ailleurs... C'est quelque chose qui est chouette au début, et puis toujours vouloir bien faire comme ça, ça finit par avoir ses limites.
C'est lesquelles les limites du bien faire ?
Bah, que ce soit bien.
Que ça vienne
bien
de nous.
Collé, oui, bien collé à tout. En fait, quand on veut tout bien faire, s'il y a un petit truc qui va pas, c'est la catastrophe. Parce que toute la vie est régie sur le fait que ça tourne bien, qu'il n'y a aucun reproche de fait, tout est bien aligné. Sauf que ce n'est pas notre travail, en fait. Créer, ce n'est pas bien faire.
Et on perd le sens de l'équilibre, en fait.
C'est ça, mais surtout, on n'est plus très, très intéressant. Quand on fait tout bien, bien fait, c'est
ça,
bien
ça
fait.
Ça devient lisse.
Il y a un ami qui travaille dans la prod qui m'avait dit, le jour où tu comprendras que bien faire, ce n'est pas la meilleure manière, tu auras vraiment bien avancé dans ta vie. Et il a raison.
Agora, Côte d'Azur.
C'est bien. Maintenant, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de direction. Ici, par exemple, le deuxième, bon, on est dans un 4-4, mais en fait, c'est presque à l'abrévé. Il n'y a pas de raison de faire. Exactement. Oui. Et donc, si tu t'appuies beaucoup sur le La, tu ne vas pas pouvoir monter sur le Mi. Oui. Donc, que tu fasses un peu petit yam papa ti yada la di yam papa. Très bien. Alors maintenant, il ne se sera jamais marqué à ce point-là, parce que l'idée, ce n'est pas de le rendre super expressif, c'est simplement qu'il faut quand même qu'il y ait une ligne. Sinon, comme je t'ai dit, ça fait vraiment des piliers, poum, 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 et ça, c'est dommage. Donc, c'est juste avoir une idée, toi, de comment est-ce que tu veux faire la phrase, et donc ça va se ressentir un tout petit peu musicalement quand tu vas le modeler, en quelque sorte.
C'était un peu dur pour moi, parce que ça m'a remis les pieds sur terre sur, voilà, il ne suffit pas... d'essayer de faire je pense que enfin j'avais des idées préconçues sur cette étude là avec beaucoup de parasites et beaucoup de traditions dans ma tête. J'étais pas dans l'étude en fait, j'étais plus dans la réalisation et essayer de passer du travail bâclé en fait. Concrètement, si on dit les choses concrètement, il y avait ça, et puis aussi, il y avait. J'étais partie sur le fait que j'étais pas assez forte pour cette étude-là de toute façon, et qu'il allait falloir que je sauve les meubles tout de suite. Dès que j'ai commencé l'étude, je me suis dit, je vais sauver les meubles. Par exemple, il y avait cette histoire de doigté, qui est assez intéressante. C'est, il y a un doigté absurde pour moi, qui est marqué. C'est vraiment 4-2, main gauche, main droite, 2-4, 4-2.
D'une façon générale, je pense quand même que quand liste indique des doigtés, elles sont des doigtés de liste, ça vaut le coup de les essayer.
Oui.
Parce qu'il connaissait un tout petit peu le piano, la technique de piano.
Ouais.
D'accord ?
Non, mais parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, il n'avait pas la même main que moi, donc je vais changer.
Oui, mais essaye avant.
Ouais.
C'est pas qu'il n'a pas écrit seulement pour des grandes mains, il a écrit parfois pour des détails pratiques. Là, le doigté, je trouve qu'il a une raison.
Et sauter comme ça à 4-2 des deux mains. Et je ne l'ai pas fait, je me suis dit, ça c'est un doigté de grande main, c'est un doigté de liste, enfin je ne vais pas le faire parce que je vais m'arranger, parce que je n'ai pas les mêmes mains. Donc en fait, je suis partie tout de suite dans le pli, je ne vais pas faire ce qui est marqué sur la partition. Et bah, quand je le dis là, ça se voit que c'est déjà une erreur.
L'idée, c'est le plus court chemin qui va te demander le moins d'énergie, parce qu'il faut jouer vite et fort. Et vite et fort, c'est fatigant. Donc si à chaque octave, tu te ravoutes, même juste quelques centimètres, c'est quelques centimètres que tu dois faire à chaque fois, c'est de l'énergie perdue. Donc, pareil, quand tu travailles lentement, travaille, mais vraiment presque comme si tu... Alors, tu dois les faire détacher, mais comme si tu voulais les faire les gâteaux. Je veux bien que tu me le fasses une fois.
Ouais.
Donc, en faisant le moins de gestes possible d'une octave à l'autre. Voilà. Alors, exactement de la même façon que tout à l'heure, quand tu joues do, mi, do, mi, do. Est-ce que tu joues ton mi vraiment sur le bord de la touffe alors qu'il faut aller chercher le si bémol ici? Ça, c'est vachement long. Là, c'est plus court. Donc, alors que là, si tu fais... En plus, tu dois... Ça veut dire qu'il faut non seulement que tu fasses des gestes latéraux, mais en plus dans le sens de la profondeur. Donc, c'est un petit peu dommage. Et, tu vois?
Alors que c'est moi-même qui me suis mis dans ce fourbi, puisque c'est moi qui ai choisi cette étude-là, parce que je la trouve belle.
Non, ça ramollit. Même si tu, il y a des dissonances, une désinence à la fin, donc la quatrième mesure est un tout petit peu dans l'idée de se refermer. La triple croche, elle est imperturbable.
Je suis très complexée par les trucs techniques. J'ai pas eu le prof qui fait qu'on a une technique saine au début de mon apprentissage, et le deuxième non plus, et le troisième non plus, et c'était seulement la dernière prof que j'ai eue qui m'a dit, bon, faut refaire toute ta technique. Donc, par exemple, des choses de poignet, des choses comme ça. Et comme je suis une très bonne élève, je suis quelqu'un qui a toujours envie de... Bon, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde dans le milieu, hein, mais j'ai envie de faire tout très bien, parfaitement. C'est vraiment la bonne élève qui fait tout bien. Je vais trop à fond dans les trucs, je surinterprète, parce que je suis interprète en plus, donc je surinterprète les conseils, et je fais vraiment fausse route sur on m'a dit de faire comme ça, donc je le fais partout. C'est comme si on me disait, quelqu'un me dit ouais, j'aime bien la mayonnaise, et ben je vais lui en mettre à tous les plats, quoi, et beaucoup. Et à un moment, bah, c'est plus de la cuisine, c'est de la bouillie, enfin voilà. C'était ce truc de poignet, il en parlait dans le cours, les gestes parasites, moi j'en fais plein. Parce que je veux mettre mon poignet à toutes les sauces, parce qu'il y avait un problème avec mon poignet de base. Du coup, maintenant, je suis toujours en train d'essayer de le détendre, et je suis toujours en train d'essayer de l'engager aussi.
Donc ça, c'est pas bon.
Tu crois vraiment que tu vas avoir le temps de faire ce geste comme ça? Mais non! Mets ton doigt juste à côté. Okay. Et c'est pas le poignet qui va bouger. Pourquoi? Alors franchement, ce geste-là, dans ce tempo-là, il était tordu, ton geste.
Ouais, ouais.
Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le tempo? Non, ici, alors excuse-moi, mais Franz Liszt, il est quand même aussi connu un petit peu pour toutes ses octaves, ses accords répétés.
Oui.
Ici, c'est juste... C'est vraiment... C'est ça avec l'avant-bras. Mmh. Un petit peu, alors c'est pas beaucoup, puisque en fait, c'est juste à côté. Mais tu vas jamais faire... Non. Non, mais... Alors franchement, pars à la chasse aux gestes parasites. C'est ce que je t'ai dit quand on grimpe. Le moindre geste parasite, c'est par terre. Là, c'est la même chose. Tu tombes pas, mais si tu as un geste que tu vas faire combien de fois là, 80 fois en deux pages, mais déjà tu vas te fatiguer, tu risques de te faire mal, et en plus, ça va apporter du stress, tu vas pas être clair. Non. Là, tu dois optimiser, je veux dire, il se passe trop de choses, tu dois essayer de trouver le moyen le plus efficace de jouer ça, le moins de geste. Encore une fois, pas trop vite, vraiment, vraiment, vraiment pas vite. Et puis, avec la pédale par contre. On n'entend jamais ton ré.
J'ai l'impression que je me suis... C'est aussi un truc d'ego. Je pense que mon ego, il est monté très haut cette année. Parce que j'ai beaucoup de propositions chouettes. Et du coup, je me suis dit, ah ça y est, c'est fini, je suis plus une élève. Justement, je suis plus une élève, je suis une pianiste, je suis une grande pianiste, machin, mais... Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Il faut continuer à se dire... pianiste, ok, mais interprète d'un langage, faire passer un message... Et avec les meilleurs outils possibles. Et les outils, ça se travaille. Ça s'aiguise, quoi. Et donc, du coup, moi, j'ai pas été exigeante sur l'entretien de mes outils, voire même la naissance de mes outils. Parce qu'en fait, c'est une étude qui demande des choses que j'ai jamais travaillées. Parce que je me suis jamais laissé le droit de les travailler. Parce que je me suis toujours dit, de toute façon, c'est pas pour moi. Parce que je suis pas forte, en fait. Donc, au centre, il y a un répertoire qui a ma portée.
Et là, tout d'un coup, ça sonne. Et vraiment, le doigté, ouais, j'ai vraiment pas de doute. Ouais, parce que les tierces, tu vas être obligé de les jouer de la même façon. Alors que si tu joues, ça va te donner déjà, par définition... Enfin, pour le faire bien, c'est plus difficile. Et ça va être de la bouillie. Excuse-moi, mais ce qui était vraiment le cas hier...
Et d'ailleurs, il m'a fait peur à un moment quand il m'a parlé hier, parce qu'il m'a dit, peut-être que parfois, il faut juste revenir à des choses qui sont plus simples et pas se mettre en danger. Et là, je me suis dit, en fait, il est en train de me dire que je suis incapable de jouer cette étude-là, alors qu'il ne l'a pas dit. Il n'a jamais dit ça. Et bon, j'ai surinterprété. Franchement, j'étais trop triste hier. J'étais là, mais en fait, je ne vais jamais y arriver. Il faut que j'annule tout. Il faut que j'annule tout mon plan de vie, en fait, là. Tout. il faut que j'arrête. Mais même, ça part dans des sphères après. Il faut que j'arrête la musique, en fait. Il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, ça sert à rien. Heureusement, bon, j'ai ma pote qui est venue chez moi, elle m'a dit, mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Après, moi, je suis rentrée de la journée, j'étais là, genre, ok, Porto, terrasse.
Et par contre, l'index, il joue que pour la même. Oui. Bon, c'est des trucs tout bêtes, mais vu la rapidité et vu le nombre de choses qu'il y a à faire, parce qu'il faut faire, il faudra rajouter tout ça, et ben... On n'est pas à quelques centimètres près. Il faut vraiment essayer d'optimiser au maximum.
Ouais.
Donc, à chaque fois que tu as la possibilité d'éviter de faire un gros effort, il faut vraiment le faire. C'est vraiment très important. Encore une fois, pas forcément très vite, pas forcément très fort. Par contre, je veux qu'à chaque fois, la triple soit plus accentuée que le... Non, elle est molle, ta triple.
Parce que là, presque, ma technique, elle est, on pourrait dire, presque malhonnête. En fait, parce que c'est de l'esbrouf, les gens qui se lèvent et qui disent bravo, etc., un truc qui n'est pas vrai. Voilà, ça pose question. Donc ça remet bien en place. Hein. Moi, je sors de la semaine et de l'académie, en fait. Comme ça. C'est un bon truc pour moi. Parce que je pensais, je pensais pas que ça allait se passer comme ça.
Vraiment, tu pars de là et le plus vite possible.
Donc ça veut dire que le cours d'hier restera une date.
Ah ouais. Une date marquée d'une pierre noire.
Ouais, la main gauche était moins claire.
Comme une mauvaise note à l'école quand on rentre et qu'on a eu le 5 sur 20 en maths. Le fameux, celui qu'on s'en souvient toute notre vie. Alors
on s'en souvient encore plus quand on veut être prix Nobel de mathématiques.
On s'en souvient. Oui. En fait, ouais. Bah, bon, le problème, c'est bon. Moi, je m'en souviens de ma note en maths, alors que j'ai jamais voulu faire des maths de ma vie. Genre, vraiment, je m'en souviens de ces 5 sur 20. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Elle s'en souvient de... Souvent, on me dit, ah, c'est très bien. Toujours, c'est très bien. Et si c'est pas très bien... Et si on me dit, c'est bien, oh là là. Déjà, c'est pas bien. Oui, à peu près. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, en vrai.
Tu te débrouilles, mais il faut pleurer à répondre.
Sur la durée, c'est pas possible. Il m'a dit, en fait, tu vas continuer comme ça. Tu vas continuer à pas dire non à des projets, à pas trier, à pas calculer, à pas te laisser du temps pour prendre soin de l'intérieur de tes mains, quoi, de ce qui se passe. Et puis, au fur et à mesure des années, ça va pas tenir et tu vas te prendre un mur. Et cette expression-là, moi, je l'ai beaucoup entendue. Tu vas au mur, tu vas te prendre un mur. Tu vas... Et en fait, moi, bon, le problème, c'est que j'ai pris un petit mur hier, en fait, quand même. Parce que c'est moi qui l'ai créé, j'ai dit oui, je veux faire cette étude-là pour la masterclass publique. Et il m'a dit, mais pourquoi t'as joué ça à la masterclass publique? J'ai dit, bah parce que j'avais envie de me mettre de face aux réalités. Dit, oui, donc t'avais envie de te prendre un mur. Donc en fait, tu cherchais une certaine violence, quoi, pour te faire réagir inconsciemment. Donc il m'a dit, ouais, mon mécanisme. Pas ouf, hein. Mécanisme un peu Stockholm, quoi.
Ouais, en même temps, les murs, ça fait partie de la vie.
Ouais, mais il y a des gens qui vivent dans des petites pièces et des gens qui vivent dans des grandes pièces, ils se prennent plus ou moins vite le mur, quoi.
Ah, ils prennent plus ou moins d'élan.
Moi, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je joue dans un studio de 9 mètres carrés pour pouvoir me prendre bien les pasques. Si je pouvais évoluer juste en deux pièces, là, ce serait bien. Ce serait...
Ouais, mais ce serait plus violent.
Parce que moins... Ah ouais?
Bah, si on a plus de place avant de se prendre le mur, ça veut dire qu'on le prend avec plus d'élan, donc forcément, ça fait plus mal.
Voilà, non, mais c'est ce qui s'est passé là. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas pris un mur. Ça faisait depuis novembre.
Tant qu'à avoir la grosse tête, tu vois, autant que la grosse tête te serve de stimulant plutôt que de faux matelas.
Ouais, exactement. Je pense que là... Ça m'aiderait de... C'est comme quelqu'un qui a fait le tour du monde et que maintenant, il va se dire qu'il va aller dans l'espace, quoi. Je dis pas que j'ai fait le tour du monde avec le piano. Enfin, je dis pas que je suis arrivée au Graal, etc. Mais c'est vrai que parfois, les gens, ils me disent « Ah, quand même, ça a payé les sacrifices. » Et je suis là « Ouais !» Bon, voilà, et encore des cours de piano. Voilà, je raconte mes soirées. C'est fou ça. Et donc, des cours de piano. J'écrivais tous mes cours de piano. Alors là, on arrive dans un moment très intéressant. J'espère que j'ai bien mis le truc. Voilà, parce que ça, je voulais vraiment le lire. Il est très beau ce carnet. Je fais des très beaux dessins, en fait. Ça commence déjà, il n'y a pas de date, il n'y a rien. C'est juste, je commence quoi. Et c'est... Ça te dit ? Ça s'appelle du chantage en fait. Bon, je suis écrit comme je parle. J'en peux plus de cette non-communication. Je choisis jamais mon programme. Il néglige mes projets. Il m'a complètement ridiculisé, vu qu'il a passé le projet à Arthur Hinewinkel, qui le savait et qui m'a rien dit. Coucou Arthur. Il se rend pas compte ou il s'en fout, je sais pas, mais j'en peux plus de faire des efforts pour cette classe. Donc là, en fait, je parle de mon prof Florent Beaufard, qui était extrêmement gentil, qui est un très bon pédagogue. Enfin, quelqu'un qui a envie de transmettre des choses. Mais avec moi, c'était compliqué. Mais on s'aime toujours bien, je pense, et on n'a pas de problème, mais moi, je le vivais tellement mal. Et là, ça m'a rappelé ce qu'il avait fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais jouer une pièce de Pesson à une masterclass, et qu'au lieu de me dire « Écoute, tu vas pas la faire parce que j'ai pas confiance en toi », il m'a laissé dans le flou, j'ai travaillé la pièce, et on avait un projet de Debussy en même temps, et il a donné la pièce à quelqu'un d'autre, sans me le dire, à un de mes amis, en plus, de la même promo que moi.
Donc
plus,
Arthur H.
Arthur H, c'est ça, Hinewinkel. Et personne ne m'a rien dit.
Agora, Côte d'Azur.
À un moment, on en a parlé, et en fait, il m'a dit, écoute, si tu veux changer de classe, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis dit, bon, il veut même pas
entendre le truc. Et là, c'est, et là, c'était vraiment dur. Et, ouais. Donc, en fait, c'est un moment... J'avais 20 ans, là. Et franchement, c'est un moment où j'ai pris ma vie et je l'ai cassée parce que j'en avais un peu marre. Et c'est vrai que, bizarrement, j'ai arrêté de faire ces journaux-là. En fait, c'est un peu ce moment-là, en fait, où j'ai arrêté. Et j'arrêtais pas de faire la bonne élève, de tout écrire partout, tout le temps. Et en fait, j'en avais un peu marre. Et au fur et à mesure, j'ai juste changé de classe. Là, parfois, je m'ennuie. Super. Là, c'est encore des trucs de mec.
Ça... Mais c'est marrant, c'est sous forme de schéma, les histoires amoureuses.
Ouais, toujours. Comme si, d'ailleurs...
Comme si le schéma devait démêler les histoires ou...
Ouais, démêler les problèmes. Et surtout, comme si c'était... Tout était... c'est le problème, c'est qu'avec les humains, on n'a pas le facteur de l'autre. Enfin, on ne peut pas contrôler l'autre personne. Donc, en fait, c'est très dur pour moi. Parce que... c'est pour ça que je fais des schémas pour y voir plus clair et pour essayer de tout manigancer. Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que je fais des schémas. C'est les moments où je me dis, ça sert à rien de faire des grands paragraphes. Alors qu'en fait, il faut juste que je vois qu'est-ce que je veux. Il faut que j'apprenne ce que voilà, des femmes nues dans mon truc. Il y a des femmes nues. Il y a quoi ? Notre vie, nous, c'est rencontrer des gens, créer des liens avec, rupture, colère, réconciliation, collègues. Voilà.
Les bons collègues, c'est les ex, en fait.
Franchement, ouais, peut-être. Bah, y a des collègues aussi où il se passe juste rien, c'est très sain, il n'y a pas de problème, on en parle avant. Ou... Moi, souvent, quand je commence à travailler avec quelqu'un, maintenant, je dis, bon, voilà, il n'y aura pas de... y aura pas d'histoire. C'est comme ça.
Y a... Et ça, c'est nouveau.
Ouais, c'est nouveau, ouais. Enfin, c'est dur, ouais, ça fait 2 ans. Si on travaille ensemble, il n'y a pas coucherie. Il n'y a pas d'histoire d'amour. S'il y a histoire d'amour, il faut que ce soit vraiment très fort.
Pas d'accord.
Les meilleurs duos, c'est ceux où il y a eu quand même des petites histoires et tout, je trouve. Et si on en parle vraiment, si les gens ils sont vraiment honnêtes et tout, c'est juste qu'on le dit pas. Mais il y a des histoires, il y a des trucs. Bah surtout, bon, ça dépend si de la sexualité de la personne. Mais souvent, moi, si je collabore avec un mec, ça arrive et qu'il est seul et qu'il n'est pas amoureux de sa femme. Parfois, ça arrive qu'il y ait des petites tensions. Parce qu'on crée tellement d'intimité. Surtout que moi, je fais plein de duos, comme par hasard. Donc. Moi, j'aime bien les mecs.
Les mecs qui tapent.
Ouais, en fait, c'est des sensibles et tout. J'aime bien. Bon, je suis sortie de ce schéma-là, en vrai. Maintenant, je suis à Levallois, dans mon magnifique appartement, toute seule. C'est ça, la vie aussi, après le CNSM.
Bientôt les cordes.
Ouais, malheureusement. La richesse arrive, du coup, bientôt les cordes, ouais. On en parle souvent avec... on en parle souvent quand... Moi, je dis toujours, je suis attirée par les cuves parce que c'est mon milieu social aussi. Les cordes, ils sont riches. Les cuves sont plus pauvres. Et moi, je suis plus pauvre que les autres pianistes. Donc, je vais aller vers les cuivres. Et d'ailleurs, je bossais tout le temps avec les cuivres et les percus. Et il y avait plein de pianistes qui me disaient « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu travailles avec les percus et les cuivres? Parce que c'est pas ça qui va te donner du boulot plus tard. » Bon, manque de bol, les exceptions confirment les règles. Et c'est quand même eux qui me donnent du taf, puisque c'est eux qui donnent des noms, qui sont potes avec les régisseurs d'orchestre. Souvent, et c'est eux qui donnent les noms pour les claviers. Donc en fait, si je voulais faire mon intermittence avec l'orchestre, je pourrais le faire, puisque grâce à mes contacts, et ben on me recommande pour jouer avec les orchestres, donc c'est bien. Donc c'est pas vrai.